Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 6. Nous allons tirer le thème d'aujourd'hui, pourquoi j'existe en un seul mot et pourquoi en deux mots j'existe. Ésaïe 43, verset 1. Je suis désolé, ce sera 43 plutôt, mais il y a eu une erreur ici. Oui, 49, c'est vrai. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, population lointaine. Soyez attentifs, peuple éloigné, dès avant ma naissance. Le Seigneur m'a appelé dès que je suis né. Il a prononcé mon nom. Il a fait de ma parole une épée tranchante. Et il me cache à l'abri de sa main. Il a fait de mon message une flèche pointue, dissimulée dans son carquois. Il m'a dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers, pour manifester ma gloire. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces, sans résultat pour du vent. Or, le Seigneur garantit mon droit, mon Dieu détient ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la valeur de mon service. Mon Dieu est ma force. Il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. Amen. En lisant et en écoutant ce texte, je pense que nous aurons tous la même question qui revient dans notre esprit. De qui parle-t-on dans ce texte? Je pense que la majorité vont tout de suite dire qu'il s'agit du Messie. Celui qui va rassembler le peuple de Dieu, le sauveur d'Israël. Surtout quand on voit par exemple ici les termes comme glorifié, lumière des nations. Mais je ne suis pas si sûr que ça. Je vous invite à aller un peu plus en profondeur du contenu du texte. Alors nous allons nous amuser un peu ce matin à prélever, à faire une petite enquête des indices que le texte nous donne pour essayer à la fin de constituer une sorte de portrait robot et de pouvoir répondre à la question du tout début, de qui s'agit-il vraiment ici? On parle de qui? Au verset 1, il dit « Dieu m'a appelé depuis le ventre de ma mère ». En regardant dans la version Chouraki, c'est-à-dire la version du rabbin juif Chouraki, à la place du verbe « appeler », il a utilisé le verbe « crier ». « Dieu m'a crié depuis le ventre de ma mère ». Là, cela veut tout dire. C'est déjà ici un indice de taille à garder, mais nous y reviendrons plus tard. Indice numéro 1. Indice numéro 2. Nous continuons notre analyse. « Il a rendu ma bouche semblable à une épée acérée ». C'est-à-dire que ce personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Une personne avec des phrases ou des mots assez durs, limite même violentes. Deuxième indice. Ça commence à se décrire. Ensuite, verset 5. « Lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob. » Ramener ou retourner ou revenir. Et en hébreu, parce qu'on est dans le texte hébraïque, retourner signifie repentance ou convertir. Donc c'est un personnage qui a une parole assez forte, comme on a dit tout à l'heure, puissante, afin d'ouvrir les yeux du peuple qui se repente et qui puisse revenir à Dieu. Indice numéro 3. Indice numéro 4, verset 6. « J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, cette lumière des nations est une expression qui est aussi utilisée dans le livre de Daniel, par exemple, lorsqu'il dit « Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste, et ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours à jamais. » Donc ici, lumière ou luminaire qui mène toutes les personnes de différentes nationalités, de différentes couches sociales, ce personnage va les ramener à Dieu. Et donc son discours est audible par toutes les personnes de différentes nations. Indice numéro 4. Voilà donc les indices. Et si je vous repose la question, est-ce que vous aurez une idée de la personne indiquée dans le texte ? De qui parle-t-on finalement ? De ? Jésus ? On vient de lire tout à l'heure un indice aussi, Jean chapitre 1. Jean-Baptiste. Celui qui annonce la venue du Messie. Et là, la question que je vous pose à vous maintenant, est-ce que tu t'es déjà posé la question, parce que Jean, lui, il savait pourquoi Dieu l'a envoyé. Il savait l'existence, c'est pour préparer le chemin, pour annoncer, pour indiquer, voici le Fils de Dieu. Et le moment venu où il a été arrêté en prison, il savait que sa mission, sa vie, arrivait à sa fin. À nous maintenant de nous poser la question, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi Dieu t'a créé ? Ou pourquoi tu existes ? Si on se réfère à ce qui est dit dans le texte, ce serviteur annoncé par Esaïe, Dieu le connaissait déjà avant qu'il soit conçu. Donc cette façon de parler est une habitude chez Dieu. Si vous lisez les textes de l'Ancien Testament, « Je t'ai connu avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. » Par exemple, dans le texte de la vocation de Jérémie, « Je t'ai choisi. » Et un prêtre catholique qui s'appelle Henri Boulade avait prêché là-dessus et a trouvé une formule magnifique, toute simple, que je trouve très claire. Il a dit « C'est parce que j'existe que Dieu me connaît. » Mais Dieu, non, c'est parce que j'existe que tu me connais. Moi, par exemple, vous me voyez, donc vous me dites que je te connais. Mais avec Dieu, c'est le contraire. C'est parce que Dieu me connaît que je peux exister. C'est-à-dire que ton existence, mon existence, n'est pas du tout le fruit du hasard ou d'une erreur humaine. Tu es la matérialisation ou la concrétisation de l'amour de Dieu. Si tu existes parce que Dieu t'a imaginé, c'est parce que Dieu te connaissait avant même que tu sois un être humain. Vous imaginez cet amour qui précède. Ça change tout dans notre façon de voir la vie. Si tu existes, c'est parce que Dieu a imaginé ton existence. Nous sommes les fruits de la réflexion de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de faire l'homme, rappelez-vous dans Genèse chapitre 2, il a pris tout son temps quand il a créé le ciel et la terre. Il dit que la lumière soit et tout et tout. Une fois arrivé à l'homme, pause. Il faut qu'on se réunisse au conseil d'administration. Nous allons créer l'homme. Donc il a pris le temps, il a réfléchi. Ils ont pris du temps. Vous imaginez, c'est un projet divin. Tu es un projet divin. Dieu qui se concerte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment on va faire cet homme ? Dans le monde, tu dois faire tes preuves pour que tu puisses exister. parfois même deux fois plus que les autres, pour qu'on puisse t'accepter. Ou bien, cela nous fait penser à la célèbre phrase de Descartes, « Je pense donc, je suis ». Mais ici, dans notre texte, c'est l'inverse. Dieu pense, et c'est grâce à cela que moi j'existe. C'est incroyable, hein ? Vous pouvez comprendre maintenant le sens de la phrase du brigand qui était à la droite de Jésus à Golgotha. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » C'est-à-dire, pense à moi. Et la réponse disait, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour que ce brigand soit dans la mémoire ou la conscience de Jésus, alors il existe déjà dans le paradis. Donc toi et moi, ceux qui croient en Jésus, nous sommes déjà dans le ciel, puisqu'il pense à toi tous les jours là-bas. Il faut juste attendre le temps de prendre l'avion pour y aller. Mais tu as déjà ta place. Et donc, en tenant compte de tout ce qui a été dit, si nous relisons le texte dans sa totalité, il semble que le prophète annonce en même temps la venue du serviteur de Dieu qui va prêcher la repentance de toutes les nations et non seulement des Juifs. Et en même temps, il ne tarit pas d'éloge à son encontre de Jean-Baptiste. Regardez comment il décrit ce personnage. Et dans la description donnée, il n'est qu'un serviteur, mais parmi les serviteurs, celui-ci a un plus que les autres. Regardez le verset 6. « C'est peu de choses que tu sois mon serviteur. Tu es plus que cela. » Pourquoi une telle considération au-dessus des autres ? Et la réponse se situe dans le même verset. « J'ai fait de toi la lumière des nations. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour avoir la réponse, nous allons chercher la réponse dans la bouche de Jésus lui-même. Quelle était la phrase que Jésus avait dit sur Jean ? Car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, jamais Jésus a fait de la pub comme ça pour un humain. Il n'a jamais existé de personne plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthieu chapitre 11, versets 10 à 11. Qu'est-ce qui fait la grandeur de Jean-Baptiste par rapport à ses prédécesseurs, par rapport à Élie, par rapport à Jérémie, par rapport à Abraham, tous ces grands? Lui, Jean-Baptiste, si vous lisez les textes, il n'a jamais fait de miracle, rien de cela. Il n'a fait que prêcher. Sa grandeur, c'est de prêcher le Christ. Indiquer uniquement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pour cette raison qu'il est lumière de toutes les nations. Car Jean-Baptiste est celui qui a annoncé celui qui est la lumière du monde, le Christ. Les autres prophètes, ils étaient hyper doués que lui, comme Élie, qui pouvait redonner vie à un enfant décédé. En matière de miracles, ils étaient plus spectaculaires que Jean-Baptiste. Ils attiraient l'admiration de tout le monde. Mais Jean, qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Rien. Juste crier dans le désert. Juste annoncer que le Christ est là. Et je vous prends en défi, chers frères et sœurs en Christ, si vous laissez vraiment le choix, vous prenez le choix parmi les différents ministères, comme ministère de guérison, par exemple, si on vous dit, écoute, viens, je vais te donner les dons, choisis parmi les dons, dons de guérison, dons de parler en langue, dons de prophétie, dons de ministère de la parole, je vous assure, le plus petit pourcentage serait le ministère de la parole. Les gens vont se précipiter dans les dons de miracle, dans de guérison, parce que c'est spectaculaire, c'est du show. Bravo, vous êtes fort. Mais dans de la parole, ça n'attire personne. Or Jean, c'est ça qui fait sa grandeur. Et si on regarde le ministère de Jean-Baptiste, cette foule qui allait dans le désert, il cherchait quoi ? Il cherchait qui ? Jésus l'a dit, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques ? Non. Il n'y a rien de chose attirante en lui, ni de paillettes. Rien que l'annonce du Fils de l'homme. Ça, c'est l'évangile pur, propre. Et toute la vie de Jean-Baptiste était liée à ce ministère, parce qu'il savait que sa vie et son existence étaient pour cela. » Essayez maintenant à votre tour de faire une sorte de rétrospection sur votre existence. Ta vie se résume à quoi? Si on fait un petit film de la vie, j'ai vu un tract à l'époque d'évangélisation sous forme de pellicule. Maintenant, les pellicules n'existent plus. Hein. Je ne sais pas si les jeunes savent ce que c'est. Les pellicules à l'époque, les appareils photo. Si on fait une historique de la vie, tu n'es... Il naît, donc quand un enfant naît, un bébé, sa vie se résume à manger et dormir. Ensuite, l'enfance, sa vie se résume à jouer et aller à l'école apprendre. Adolescence, étudier. Adulte, se marier, avoir des enfants. Faire quelques loisirs si on a le temps de le faire ou pas. Le temps de vieillesse, avoir les petits-enfants, c'est la joie. Et ensuite, la mort. Voilà un peu la vie d'un homme. Telle est la vie de l'homme sur terre. Et je vous pose une question un peu directe, mais nécessaire. Est-ce que ce genre de vie vous suffise-t-elle? Manger, dormir, aller à l'école, avoir des enfants, ensuite mourir. Je ne minimise pas, ni considère comme inutile la vie que nous avons, mais ma question est plutôt, est-ce que cela vous suffise? Et en plus de cette vie, ou à part de ce que vous avez actuellement, travail, enfant, famille, tout ce que vous voulez, c'est très bien déjà, c'est une marque de bénédiction, mais notre Seigneur est un Dieu d'abondance. Alors il souhaite nous donner encore plus que les autres possèdent, c'est d'être une lumière pour les nations. C'est ça le projet céleste. Que ta vie ne soit pas une vie médiocre sur cette terre qui se limite juste à la subsistance, juste à la vie ici-bas, mais que tu sois une étoile dans le ciel qui ramène des âmes à Christ. Voilà un projet que Dieu souhaite pour toi. Paul nous le recommande aussi en disant, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, et nous sommes les plus pitoyables de tous. Regardez un peu vos prières tous les jours quand vous êtes à la maison. Combien de pourcentage dans vos prières s'oriente vers cette orientation, que tu sois un outil de bénédiction pour les autres. Souvent, c'est toujours centré sur le Seigneur, mon travail, Seigneur, ma santé, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mais. Combien de fois tu as dit, Seigneur, utilise-moi pour sauver des âmes pour toi. Il y a peu. Moi d'abord. Or, si tu veux suivre le Christ, et Jean-Baptiste l'a compris aussi, la vie de Jean-Baptiste, il n'y a rien d'intéressant dans sa vie. C'est un monsieur qui a souffert. Il n'a fait que manger des criquets. Il n'a fait que manger du miel. Il n'a fait que vivre dans le désert. Mais c'est un homme qui a vécu. Parce qu'il a montré du doigt, voici le Fils de l'homme. Tel aussi le projet que Dieu souhaiterait pour toi. Pour que ta vie ait un sens. Amen.